Dans une tribune publiée lundi matin dans le journal Libération, un collectif de personnalités artistiques et civiles, dont Patrick Chamoiseau, Virginie Despentes, Éric Fassin, Raoul Peck ou Annie Ernaux, apporte son soutien aux étudiantes et étudiants notamment qui se sont organisés pour accueillir des exilés depuis la semaine dernière au sein de l'Université Paris 8 sur le campus de Saint-Denis. Je retiens la fin de cette tribune qui est un appel à être à la hauteur de nos universités, lieux de refuge, d'ouverture, de liberté, lieux qui ne sont pas dénués de sens et de symboles aujourd'hui, en particulier Paris 8, dont la tribune semble rappeler en creux qu'elle fut pensée il y a tout juste 50 ans dans un esprit qu'on ne saurait oublier. Une université ouverte à celles et ceux qui n'y avaient pas forcément accès, ouverte sur le monde extérieur, sur le politique, ouverte aussi aux étrangers. C'est ainsi et pas autrement qu'il faut lire la fin de cette tribune qui dit que Paris 8 peut s'enorgueillir d'avoir été choisi pour protéger ces personnes qui ont survécu en faisant de l'Université de Saint-Denis, 50 ans après sa création à Vincennes, un sanctuaire actif du tout monde.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. De quoi l'occupation de Paris 8 est-elle le symbole pour mon invité d'aujourd'hui? Elle qui est pour ainsi dire l'une des intellectuelles à l'origine de sa création en 1971, son œuvre mouvante, inclassable, indécidable, défie et défait les cadres, les genres autant que les identités. Son nouveau livre « Défions l'augure » vient de paraître aux éditions Galilée, un assemblage de digressions qui nous transporte presque simultanément en différents lieux, différentes époques. Elle réalise le pari d'être partout à la fois. Bonjour Hélène Cixous.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ici aussi. Paris 8 occupé, Paris 8 qui résiste, Paris 8 refuge d'exilés dans le sillage des universités nantaises et lyonnaises. Pour vous, c'est le début de quelque chose ?
Non, c'est pas le début, c'est le recommencement, la relance, la réinscription de quelque chose que Vincennes Paris 8 a inscrit mondialement.
De quoi l'université doit-elle être le lieu pour vous ?
Pour moi, j'ai eu ce grand rêve d'une université idéale et non utopique qui a pris racine pendant les événements de 68 et qui miraculeusement a existé en réalité. A existé donc et dans l'histoire, il y a une histoire de Paris 8. Et je dois dire que c'est une histoire justement d'ouverture et d'accueil dès le début. Ça, c'est quelque chose que moi, j'avais mis en place, puisque j'ai été chargée de mission pour créer l'esprit Paris 8, en fait. Et parmi les principes inauguraux, qui de toute façon se répètent, rien n'est perdu, il y avait un principe d'hospitalité à l'égard de ceux qui ne pouvaient pas entrer à l'université.
Oui.
Alors, les travailleurs, par exemple, les cours se poursuivaient jusque tard dans la nuit. On n'avait pas besoin du bac. Enfin, il y avait une quantité de conditions admirables qui maintenant sont en large déperdition parce qu'au fur et à mesure, bien sûr, les instances institutionnelles essayent de restreindre la liberté de Paris 8. Mais l'esprit de Paris 8, il est, je crois qu'il est immortel. Alors il ressurgit,
oui,
avec des incarnations inattendues parce que je pense que les étudiants qui ont fait accueil, d'ailleurs. Je dirais que le mot occupation n'est pas tellement le mot que j'aime le plus.
Certes.
Hein, ça me fait penser à l'occupation. Alors là, je digresse. Hein. Occupation, occupation. Moi, j'entends occupation à l'époque de l'occupation. Non, je pense que c'est la fonction mémoriale de Paris 8 que de fonctionner comme un lieu, justement. Alors, le refuge, je prends.
Oui.
Et donc d'hospitalité qu'il faut évidemment chaque fois traiter pour qu'elle fasse sens, c'est-à-dire qu'elle ait une portée politique, morale, et qu'elle soit aussi démocratique, que tout le monde soit concerné, que voilà, c'est énorme. Mais c'est aussi, si les gens vont, si les gens entrent dans Paris 8 avec plus ou moins de mémoire, c'est parce qu'il y a cette trace qui est si importante.
Alors, ce qui est en jeu, Hélène Cixous, en ce moment même, ce que dénoncent les étudiants, c'est la politique de la France et de l'Europe concernant l'accueil des réfugiés. Pour vous, les gouvernements sont-ils à la hauteur du drame qui se joue chaque jour en Méditerranée, sur les routes, aux frontières?
Les gouvernements, les pauvres, ne sont jamais à la hauteur. Malheureusement, c'est-à-dire qu'ils sont bien obligés de... ils sont requis, il faudrait qu'eux. Maintenant, qui est à la hauteur, ce sont quand même presque toujours... des individus, des gens de cœur qui partout se mobilisent, qui se désespèrent.
Quelle réponse est-ce que vous aimeriez entendre aujourd'hui.
De la part des gouvernements ? Moi, j'y crois très très peu. Je pense que ni ce gouvernement, ni les prédécesseurs n'ont su donner une réponse de cœur. Il y a quand même une incroyable violence qui s'exerce, qui est mondiale, hein, bon, et qui s'exerce à l'égard de gens. Chaque fois qu'on entend et qu'on voit des récits qui nous rappellent que là souffrent et meurent des êtres humains d'une qualité extraordinaire. Et parce que justement le malheur leur fait une grandeur et qu'ils ont quelque chose à nous apporter, on les rejette. C'est une histoire qui, de toute façon, commence avec, je dirais presque avec la littérature, ça commence comme ça.
Et cette question de la violence, de l'exil, elle est partout chez vous et depuis vos premiers travaux qui portaient sur l'exil chez Joyce, ce mot exil, qu'est-ce qu'il évoque pour vous ?
Pour moi, il y en a deux, si je peux dire. Il y a un exil totalement négatif qui est vécu comme intolérable, comme agressif et destructeur. Et puis, il y a l'exil transformé par l'art, parce que ça existe, c'est ce qui est advenu pour moi à partir de certains exemples. C'est-à-dire que quand Joyce quitte l'Irlande, définitivement, à l'âge de 18 ans, il adopte comme patrie mentale un exil qui va transformer en récapitulation permanente, etc. Et puis, vous savez, de toute façon, c'est la vocation humaine. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que nous sommes tous inauguralement des sortes d'exilés.
Oui. Et d'ailleurs, ça fait écho à votre histoire personnelle et familiale, personnellement, dont témoignent presque tous vos livres, à commencer par celui-ci, Des Fions l'Augure, ce livre dont vous écrivez qu'il est l'incarnation de notre sort mouvementé. Mouvement, j'ai l'impression que c'est un mot important aussi pour comprendre votre travail. Quel mouvement, précisément ?
Bien, alors il y en a plusieurs. Alors je dirais que spatialement, si on peut dire, je pense que un livre est toujours. Enfin, ce qui m'importe, c'est de faire apparaître le voyage. Et encore une fois, si je reviens justement à Homère, l'Odyssée et ou à la Bible, on n'a que des migrants, on n'a que des égarés sur la surface de la terre, sur les océans, et qui tous se dirigent vers, voilà.
Oui.
Alors évidemment, il y a en plus, après, dans un nuage, le fantasme général d'une terre promise qui serait soit soit Ithaque, c'est-à-dire un retour. Je pense que c'est absolument universel.
Et pourquoi, Hélène Cixous, cette tentation permanente de la fixation chez nous et dans la pensée également ? Comment est-ce que vous l'expliquez ?
La fixation, vous voulez dire la sédentarisation ?
Oui, la fixité aussi de la pensée.
Mais je pense que c'est très fatigant d'être...
En mouvement ?
Oui, c'est très fatigant. Et qu'à un certain moment, les gens s'asseyent ou se couchent. Et même avant. Ça, c'est bon. Mais encore une fois, puisque je ne sépare pas, moi, la littérature, l'histoire, le mouvement politique... imaginez-vous, ça c'est pour vous dont je connais la formation intellectuelle, les premiers très grands romans de la littérature anglaise et qui nous sont offerts par Crusoe, c'est-à-dire Crusoe, comme on disait quand j'étais petite, sont des romans de réfugiés. Vous ouvrez la première page et les grands personnages merveilleux, il vous parle en termes de « je suis d'une famille de réfugiés ». À ce moment-là, les réfugiés, à l'époque donc de Robinson Crusoe, à l'époque de Daniel Defoe qui projette, qui s'identifie, qui se réincarne dans ces personnages, Moll Flanders ou Roxana, tous ces personnages sont des gens déplacés. Ils commencent par ça, par un déplacement. Moll Flanders ou Roxana, ce sont des femmes qui sont originaires de Hollande ou de France, etc., qui sont des réfugiés, le mot est là, refugees. Et finalement, si on prend ce mot qui est merveilleux, c'est à la fois la fuite, c'est la fugitive de Proust, si vous voulez, et en même temps, c'est l'inverse, c'est-à-dire ce qui répond aux fugitifs par un abri.
Quand vous pensez au futur, Hélène Cixous, qu'est-ce que vous voyez ? Quel est votre pressentiment ? Que vous disent les augures ?
Les augures, ils nous disent toujours à peu près la même chose, même si, d'abord, il faut les recevoir, ce sont des signes. Il y en a des quantités, hein. Alors, par exemple, ce matin, hier déjà, je me suis dit, oups, augure. C'est-à-dire quand j'ai vu la neige, qui m'est absolument hostile ou à laquelle je suis hostile, quand j'ai vu ça, je me suis dit, que me dit cette neige ? Et en fait, je me suis dit, mais c'est moi qui l'ai provoqué, parce que j'ai écrit Neige. Non, alors, pour de bon, les augures nous disent toujours, tu es mortel. Rappelle-toi que tu es mortel.
Ça veut dire quoi, défier les augures, alors?
Défier les augures, ça veut dire justement relever le défi de l'annonce de la mort. Et là, quand même, il faut que je revienne à la personne à qui je dois ce titre, qui est Shakespeare, ou Hamlet. Lequel cite, sans le dire, Montaigne. Alors ça, c'est au cinquième acte de Hamlet, et cette histoire, tout le monde la connaît, mais je la rappelle, parce que c'est un mythe fondateur pour nous. C'est Hamlet à qui on a demandé d'entrer en duel avec Laërte, c'est-à-dire en fait à qui la mort est promise, et qui la craint. Et qui dit à Horatio, son grand copain, « Écoute, tu sais, je vais te dire une chose, je me sens mal, mais presque comme si je vais m'évanouir, j'ai mal autour du cœur, voilà. » Et alors, Horatio, qui est l'ami parfait, ce qui est une merveille, hein, la création de l'ami parfait, lui dit, écoute, tu n'es pas obligé de rentrer dans ce duel, c'est un jeu, on l'annule, tu le feras une autre fois. Et Hamlet lui dit, non, je ne diffère pas une seconde, je relève, défions l'augure, c'est-à-dire défions la mort, de toute façon je gagnerai au point. Au point, oui, il va gagner au point, mais pas en réalité, puisqu'il va quand même y laisser sa vie. Et en même temps, il dit, et il tient un discours hautement philosophique qui est tiré des essais de Montaigne, où il est dit que, de toute façon, puisque je ne sais pas quand je vais mourir, alors c'est à moi de savoir que je suis en vie perpétuelle, ou inversement, en mort ou en mourance perpétuelle, et je n'ai qu'une chose à faire, c'est être. Être.
Celle qui est dans cette émission et qui est dans la défiance également, parfois même dans la plus laide des insolences, c'est la culture et son actualité, pied de nez, croque en jambe et pince-fesse. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 7 février?
C'est-à-dire que j'ai eu très tôt le sentiment que j'avais quelque chose à voir avec l'écriture, d'avoir des choses à dire... sans très bien savoir quoi exactement ni comment.
De larmes dans un peu de neige ce matin, elles sont pour Mathieu Riboulet, l'écrivain et réalisateur français qui s'est éteint lundi à l'âge de 57 ans, auteur d'une œuvre érudite et sensuelle où se mêlaient désir, révolte, tourment de son temps. Mathieu Riboulet avait notamment reçu le prix Décembre pour les œuvres de Miséricorde parues chez Verdi en 2012. Il nous laisse une quinzaine d'ouvrages, dont L'amant des morts, avec Bastien, De larmes dans un peu d'eau ou Lisière du corps. Adieu. Cher Mathieu. Pas de faute de goût. On mise sur faute d'amour ou alors sur Léviathan, le retour ou même le bannissement. Bref, on mise sur Andrei Zviagintsev, le réalisateur russe multiprimé à Cannes, qui vient de faire paraître un coffret regroupant l'intégrale de sa filmographie intense et mystérieuse pour tenter de gagner un des 3 DVD de faute d'amour dont France Inter est partenaire ou carrément l'intégrale de ses films. Rendez-vous sur le Twitter de Boomerang, @boomeranginter, #fioufiou.
On tisse les fleurs depuis des siècles, on tisse des voilages, on tisse les forêts, des verdures. Quelquefois, on tisse même des vagues sur l'autre mer.
Sheila Hicks, la laine un peu beaucoup à la folie. Le Centre Pompidou à Paris inaugure aujourd'hui la première rétrospective française consacrée à Sheila Hicks, plasticienne américaine, papesse du textile. Le musée présente plus d'une centaine de ses sculptures de laine, de soie, de lin ou de coton. Autant d'œuvres spectaculaires pour que dialoguent les couleurs, les formes, les espaces et les matières. Sheila Watt. Mercredi, deux grands blancs chaleur sur grand écran, car aujourd'hui dans les salles, on encaisse Le couple devant Jusqu'à la garde, le drame familial glaçant de Xavier Legrand, porté par l'incandescente Léa Drucker, qui était notre invitée mardi dernier. On se lance à Gore perdu dans Revenge, la bombe féministe et sanglante de Coralie Farja. Et sinon, on suit Human Flow, le doc nécessaire d'Ai Weiwei. Weiwei. Hélène Cixous, invitée exceptionnelle de Boomerang ce matin pour la parution de son nouveau livre « Défions l'augure », un texte comme un long poème en prose dont l'écriture semble avoir été guidée par un génie de la digression, pour vous citer. C'est ce que vous écrivez. À force de digresser, est-ce que vous n'avez jamais eu peur de vous perdre ?
Je pense qu'on se perdrait si on était dans une digression interminable. Ce qui est intéressant, c'est le tissage des digressions et le fait que les digressions ne vont jamais sans leurs interruptions. Et bien sûr, tandis que je digressais, mais à plaisir, et simplement pour pouvoir temporellement rassembler toutes les époques, tous les temps, pour faire que, puisque vous avez parlé tout à l'heure de 68, je sois en même temps en 48, ou bien en février, mais 1933, ou bien en 2002, ou bien en 1791, tout cela ensemble, puisque je peux le vivre et le porter, et l'héberger, il y a des moments où je pourrais me dire, mais alors, quand suis-je ? Pas seulement où suis-je, mais quand suis-je ? Mais partout, tout le temps, il suffit que je l'imagine et que je le vive.
Alors vous en jouez, évidemment, Hélène Cixous, votre mère vous dit à un moment donné dans le livre, il faudrait que je lise tes livres assise à côté de toi, je comprends pas de quoi tu parles. C'est pas grave, ça ?
Ça, mais je trouve ça merveilleux. J'adore justement qu'il y ait des livres pour tout le monde et qu'il y ait des livres qui vous retiennent, qui vous chuchotent à l'oreille et dont vous vous disiez tout le temps mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter ? Ce qui est le principe de ce merveilleux livre de Diderot qui s'appelle Jacques le Fataliste,
oui.
Et où depuis le début les personnages se disent les uns aux autres mais où on va ? Mais qu'est-ce qu'on fait ? Mais où es-tu ? Et qui se perdent et se retrouvent et qui se posent tout le temps justement la question de la coupure. Et vous savez combien il y a de coupures dans Jacques le Fataliste ? Je dois dire que j'ai été voir les statistiques. Il y a 180 coupures.
Et puis c'est aussi de votre mère que vous le tenez, ce sens de la digression, Hélène. Votre mère, dont la disparition était le sujet de votre livre « Omer est morte », pour lequel je vous avais reçu à ce micro. Votre mère également très présente dans ce livre des Fions l'augure. Quelle femme elle était ? Quel modèle pour vous ?
Mais un modèle que je ne pouvais pas suivre, par définition, si je peux dire. C'est-à-dire quelqu'un d'immense, qui pour moi était divine, héroïque, mais la femme la plus simple au monde et la plus, alors là, la plus capable d'humanité. Toute sa vie, elle a circulé depuis ses lieux de naissance en Allemagne. Elle est partie à 19 ans en quittant l'Allemagne nazie précipitamment avec un sac à dos qu'elle n'a jamais quitté jusqu'à ses 103 ans. Et elle a porté secours partout. Elle a fini par devenir sage-femme en Algérie et accoucher des milliers de petits Algériens dans la Casbah. Tout ça de la façon la plus simple, parce que sa question principale, c'était de m'appeler le matin et me dire soit qu'est-ce que tu veux manger, ou j'ai des haricots, ou bien qu'est-ce que tu as mangé.
Vous savez, c'est drôle. En lisant votre livre, je me suis demandé, au regard de ce qui se passe aujourd'hui, concernant justement les femmes, la place des femmes, qu'est-ce qu'elle aurait dit ? Qu'est-ce qu'elle aurait pensé ?
Elle était du parti des femmes de manière naturelle, si vous voulez, sans le formaliser, sans le théoriser. Et pour cause, parce que depuis toujours, et en particulier en étant sage-femme en Algérie, dans les bidonvilles, elle ne pouvait pas ne pas être directement du parti des femmes, vouloir leur survie, essayer de les protéger, et savoir à quel point elles étaient exploitées, mises en danger constamment. Mais sa grande fierté, jusqu'à la fin, ça a toujours été de me dire, tu sais, je n'ai jamais eu aucune femme morte.
Vous voyez pourquoi je vous pose la question, Hélène Cixous. Depuis l'affaire Weinstein et ses répercussions, j'imagine qu'on vous a demandé à plusieurs reprises de prendre la parole. Et pourtant, on ne vous a pas entendu. Qu'est-ce qu'il exprime, ce silence ?
Je pense que c'est le moment du silence pour certaines personnes, si vous voulez. Je pense que c'est le moment du cri pour toutes les personnes qui ont crié. C'est une question d'époque. C'est-à-dire qu'en ce moment, il faut qu'elles crient. Et donc, elles ont parfaitement raison. Moi, j'ai crié il y a 50 ans, ou il y a 60 ans, il y a 70 ans. Alors là, maintenant, c'est à elles de crier. Ensuite, je pense que quand je vous dis il faut un certain silence, c'est que quand on crie, c'est-à-dire on n'analyse pas, on ne produit pas des discours organisés avec aussi toutes les contradictions qui peuvent apparaître, les paradoxes, les violences qu'il faut traiter, etc. Donc, je pense que la sagesse, c'est de savoir ne pas... j'ai pas besoin de crier, je l'ai déjà tellement fait.
Oui.
Ensuite, je continue à crier, mais je crie aussi par écrit, et je pense que écrire juste, c'est très très important. Et mon rapport aux femmes est consubstantiel à tout ce que je fais depuis toujours. Donc ce que je pense, et par contre, comme je crois c'est le cas de la plupart des gens, il y a surprise. Et en particulier, ça c'est ce qui m'intéresse particulièrement, en particulier chez les hommes, je vois dans mon entourage, il y a énormément d'hommes qui disent « j'aurais pas cru, je savais pas ». Et parfois, ce sont des gens qui ne sont pas simplement primitifs, qui sont au contraire très très élaborés. Ce qui dit l'immense silence, l'immense chape qui a recouvert ces histoires depuis des centaines d'années, depuis des millénaires.
Il faut le rappeler quand même, en 1974, vous avez été la première en France et en Europe à fonder un centre d'études féminines, d'études de genre, c'était à Paris 8. Justement, vous êtes l'auteur d'un livre qui a marqué l'histoire du féminisme, Le rire de la méduse. Alors à l'époque, il y avait des constats, il y avait une nécessité. Aujourd'hui, je me pose la question, qu'est-ce que le mouvement MeToo, selon vous, représente dans l'histoire du féminisme ? Vous qui avez tant pensé, ce mouvement.
Mais je pense que, c'est, si vous voulez, c'est un événement nécessaire. C'est un déclencheur, voilà. Alors, pourquoi ça s'est produit à ce moment-là? C'est ça qui est intéressant, parce que ce déferlement, il est potentiellement toujours là. Ce volcanique, il est toujours là. Et puis, il est recouvert. Je pense que c'est Trump qui a fait que les femmes ont transféré sur Trump, sur Weinstein, qui est la même espèce de personne, mais pas à la présidence des États-Unis, à la présidence de Hollywood. Et que là, c'est un cri d'alarme. Et c'est un cri qui ne concerne pas que les femmes. C'est évidemment un cri qui est universel.
Autour de la domination.
Ah ben oui, mais on a mis ce que ces femmes disent, moi aussi on m'a fait ça, mais c'est à Trump que ça s'adresse. C'est-à-dire le monde entier devrait s'adresser à Trump et qu'on sort de cette manière-là.
On va reparler évidemment de féminin, de littérature, de fantômes, de langue aussi, juste après Un oiseau de bon ou de mauvais augure. Blackbird, les Beatles en 68, vous êtes sur France Inter avec Hélène Cixous. Vous entendez Boomerang. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
C'est vrai qu'elle a quelque chose d'un oiseau. La majesté, l'élégance, la précision avec son visage de Nefertiti, ses cheveux neige, l'autorité, la douceur de son regard. Elle ne ferait gober n'importe quoi, même des œufs de caille. Ce matin, avec son col roulé noir, Hélène Cixous, invitée de Boomerang, pour son livre Défions l'augure, un livre où vous nous faites naviguer en différents lieux, différentes époques, on l'a compris. Pourtant, j'ai l'impression que le centre névralgique de ce livre, c'est un endroit bien précis. C'est le World Trade Center à New York, auquel vous ne cessez de revenir. Et je pense à cette phrase, c'est l'heure de retrouver les tours et les disparus, les capitales et les villages. Pas de mélancolie, ça ressuscite intact. Je me pose la question, dans quelle mesure est-ce que l'écriture serait pour vous un art de la résurrection, Hélène Cixous?
Mais ça l'est. C'est un art du maintien en vie, de la mémoire qui ne renvoie pas au passé, mais qui au contraire donne lieu, fait scène, pour un présent qui rassemble tous les présents, et en particulier celui du passé. Non pas avec nostalgie, mais non, il est là. Comme quand je me promène quelque part dans ma maison, et que en passant, je dis bonjour à ma mère qui m'appelle, dont j'entends la voix. C'est à nous de ne pas enterrer et de ne pas faire ou donner la main à la mort.
Alors quand on écrit, rien n'est mort?
Je crois, oui.
Qu'est-ce qui vous fait peur dans la mort? Vous?
Dans la mort? Mais, enfin, en ce qui me concerne, moi, Personnellement, pas grand-chose, bien sûr.
Alors, qu'est-ce que ça représente?
Mais je pense que c'est une épreuve, que c'est l'épreuve que tout le monde traverse dans la plus petite enfance. C'est-à-dire qu'à peine neige, que je commence à avoir peur de perdre, en particulier d'avoir peur de perdre de ma mère ou de mon père ou des miens. Et c'est notre sort, c'est notre mortalité. Alors c'est tout à fait inutile de la dénier. C'est pas la peine de. Alors là, ensuite, chacun évidemment est structuré de façon totalement singulière.
Hein. Et j'ai l'impression justement que toute votre œuvre, elle ne dit qu'une seule chose, elle ne crie qu'une seule chose, le désir de la vie, de rester vivant. Quel lien est-ce que vous faites, vous, entre vivre et écrire, Hélène Cixous?
Moi, je ne sais pas faire l'un sans l'autre. Et c'est là, justement, que ma mère n'était pas un modèle, mais qu'elle m'a absolument fascinée, parce qu'elle n'avait pas du tout besoin d'écrire. Elle trouvait même ça tout à fait inutile et une grande perte de temps. et quand on regarde ces étagères que j'ai conservées, il y a une série de livres de tout genre, puisqu'elle lisait ce que je lui donnais à lire. Et elle considérait justement que ça se passait maintenant. Alors elle m'appelait, elle me disait « Mais tu as vu la bêtise qu'a fait ce cousin Ponce ?» Elle voulait l'arrêter, mais ça continuait, le livre continuait. Bon. Et puis sur ces étagères, il y a 200, 300, 400 recettes de cuisine. Et pour elle, c'était des voyages. Elle ne les faisait pas, elle voyageait. Au fond, elle avait la recette, justement. Alors parfois, je lui disais « Mais comment tu fais pour vivre comme ça ?» Oh, c'est très simple, elle trouvait que vivre, c'était beaucoup mieux que tout le reste, en particulier mourir ou être mort.
Quoi de mieux pour conclure cette émission, pour illustrer tout ce que vous nous dites, Hélène Cixous, que de nous lire un texte magnifique que vous avez écrit, « La vie est une chasse ». On vous écoute ?
Merci. La vie est une chasse. Chez Ève, ma mère, je trouve un petit carnet d'adresses en cuir rose, allégorie de toutes les vies, musée de ses époques, pierre de Rosette, un condensé des aventures mondiales d'Ève, née Klein en 1910, descendante Jonas. Trace de son pas pressé sur tous les continents, pendant 100 ans, elle utilise tous les transports, de l'avion au chameau. Ça vaut bien les pérégrinations de Dante à cheval sur Rocinante et jusqu'à l'île de Pâques. Allons à la lettre J. Suivez-moi. Que de Jonas ? Il y a une Jonas K. à Leipziger Straße, à Berlin-Est, un Jonas à Los Pontillas, un Jonas Kayekuba à Buenos Aires, un Jonas à Macclesfield, Cheshire, ou bien ce A Jonas est une A, un Hans Jonas à San Paolo, et les Jordan, et juste après les Katz, Katzmann, Löwenstein, et juste avant les Ehrlich à Farmington, USA, les Einstein à Halle-Altrincham, et les Buchinger à Los Angeles, et... Je vois tous ces noms bavarder, saluer, s'interpeller, s'annoncer leur décès, s'envoyer des faire-part dans toutes les langues. Je suis à la porte du temps et j'écoute. Je n'en connais aucun et pourtant je crois les connaître. J'ai leur adresse sur cette terre, dans le carnet de ma mère. J'écoute, tous morts, tous revenants. Je cours jusqu'à K. Et à K, je trouve Klein Michael, né à Nagy-Sombat, en Hongrie, le 24 septembre 81, tué le 27-7-16, Baranovici, Russie. Je vais voir sur Internet où est né mon grand-père. S'il est né à Nagy-Sombat, il est né en Hongrie. Mais peut-être est-il né à Tirnau. S'il est né sous Autriche, en 81. En 2018, il sera né en Slovaquie, à Trnava. À Trnava, à force d'église et cathédrale, Nagy-Sombat est appelé Parva Roma. Alors mon grand-père est né à Rome, sur la Trnavak. Pour finir, allemand à Baranovici, Biélorussie, en 1916, qu'il a conquise pour l'Empire allemand lors de la fameuse grande offensive du 25 juillet 1916. Sur quoi, ayant dûment payé la prise de Baranovici de son sang, il est mort le 27 juillet, pour le moment allemand. Pour revenir de Biélorussie à l'avenue René Coty à Paris, dans le carnet, voilà ma mère maintenant en Australie, maintenant en Nouvelle-Zélande, où l'on menait ses nombreuses vies à moi inconnues. Elle regrette de ne pas avoir été en Inde, mais il n'y a pas de Jonas en Asie du Sud-Est. Ce carnet m'épuise. Je cours dans toutes les directions. « Qu'est-ce que tu fais ? » dit ma mère, toujours en survie. « Des livres qui se sauvent, dis-je. Encore ? Viele Hunde sind die Hasen tot, dit ma mère. « Qu'est-ce qu'elle a dit ? » dit mon fils. « Tant de chiens pour le lièvre, c'est la mort, dit Ève. » Mon fils se demande qui est le lièvre. « La vie est une chasse, dis-je. Je suis un lièvre, pas grand. » Je dévale la longue pente blanche à toute vitesse. Si une neige, elle n'est pas froide. Ou bien, si je ne la sens pas, à toute vitesse, une grosse pintade me poursuit pour me mettre à mort. La pente est raide, elle a ses limites. Même si je cours comme l'éclair, il n'y a nulle part où se cacher. Je me retourne, je suis en bas, je suis acculée, je vois l'ennemi fondre bientôt sur moi. Un dernier recours, terrifier l'ennemi. Il me faudrait un pistolet, l'abattre. Je n'ai pas d'arme. Ou bien pousser un tel cri qu'il soit épouvanté. Mais les lièvres n'ont pas de voix, seulement un rêve de cri. Faute de cri, je me brandis moi-même. Je deviens petit, noir, dur comme une balle. Je vise, puisse l'ennemi me prendre pour une arme. Mais pour l'instant, l'animal qui charge ne semble pas me voir changer en munition. Je n'ai plus d'espace, distance entre nous diminue. Je suis au bord du rêve. Au bas de la page, je vois ma fin s'approcher. C'est une grosse pintade grise. Fin du lièvre, reste le livre.
C'est un manifeste. Merci infiniment, Hélène Sixou, d'être venue faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Défions l'augure est publié aux éditions Galilée, que c'est un livre magnifique, plein de fulgurances, de mouvements. Le 1er mars paraîtra aussi chez Gallimard Les Sans Arches d'Adèle Abdessemed, ouvrage consacré à l'artiste franco-algérien avec qui vous poursuivez un dialogue fécond et fascinant. Merci encore de nous avoir éclairé ce matin de votre parole pour défier l'augure. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
Merci, Augustin.